Nouvelle policière. Le ruban moucheté de Conan Doyle. Texte 1. Voici 8 ans que j'étudie les méthodes de mon ami Sherlock Holmes. Quand je compulse les notes que j'ai prises, je ne compte pas moins de 70 affaires sortant de l'ordinaire. Il y en a de tragiques, de comiques, de simplement bizarres, mais aucune ne saurait prétendre à la banalité. La raison en est facile à comprendre. Holmes travaillait bien davantage pour l'amour de l'art que pour s'enrichir. Un tel désintéressement l'a donc incité à ne pas se mêler de cas vulgaires. Il lui fallait l'inhabituel et même le fantastique. Il me semble que l'histoire la plus singulièrement fantastique est celle qui le mit en rapport avec la célèbre famille du Surrey, les Roylott de Stockmoran. Les événements en question remontent au début de notre association, lorsque nous partagions en garçon le même appartement dans Baker Street. Sans doute les aurais-je relatés plus tôt si je n'avais été tenue par ma parole d'honneur. Mais la dame qui me l'avait demandé est morte le mois dernier, et je me trouve déliée de tout engagement. Au reste, il n'est pas mauvais que la vérité sur cette affaire soit enfin publiée. J'ai en effet de bonnes raisons de penser que le décès du docteur Grimesby Roylott a donné lieu à quantité de rumeurs dans le public. La vérité à peine moins horrible, mais enfin, elle l'est moins. De très bonne heure, un matin d'avril 1883, je m'éveillais parce que Sherlock Holmes, tout habillé, s'approchait de mon lit. Mon ami n'avait rien dans lève-tôt. Comme le pendule marquait 7h15, je lui décochais un regard d'où l'étonnement se mêlait à quelques ressentiments. J'étais moi-même un homme à habitude régulière et je n'aimais guère être dérangé à des heures indues. « Désolé de vous tirer du sommeil, Watson, » fit-il, « mais vous n'échapperez pas au sort commun. Hudson a été réveillée. Elle m'a réveillée. À mon tour, je vous réveille. »«
Qu'est-ce qui se passe? Le feu ?»«
Non, pas le feu, une cliente. Il paraît qu'une jeune dame vient d'arriver, très excitée, et qui insiste pour me voir immédiatement. Elle m'attend dans le salon. » Lorsque de jeunes dames se promènent en ville à une heure aussi matinale et qu'elles tirent d'honnêtes gens de leur lit, je crois qu'elles ont quelque chose d'urgent à communiquer. En admettant qu'il s'agisse d'une affaire intéressante, vous ne demanderiez pas mieux, je pense, que de la suivre dès le début. Voilà pourquoi je vous ai dérangé, pour vous donner une chance. Mon cher ami, je m'en voudrais de la rater. Rien ne me plaisait plus que de coller à Holmes pendant ses enquêtes. J'admirais la rapidité de sa logique, tellement prompte qu'elle rivalisait avec l'intuition. Elle déroulait toujours ses propositions en partant d'une base solide, grâce à quoi il débrouillait les problèmes les plus compliqués et était soumis à sa sagacité d'analyse. En quelques minutes, je fus habillé et prêt à accompagner mon ami dans le salon. Une dame vêtue de noir et dont le visage était caché par une voilette épaisse se leva quand nous entrâmes.
« Bonjour, madame, » dit Holmes aimablement. « Je m'appelle Sherlock Holmes, et voici mon confrère et ami, le docteur Watson. Vous pouvez parler aussi librement devant lui que devant moi. Ah, je suis content que madame Hudson ait eu la bonne idée d'allumer le feu. Asseyez-vous près de la cheminée. Je vais commander pour vous une tasse de café, car vous frissonnez. »
« Ce n'est pas le froid qui me fait frissonner, » répondit la dame d'une voix étouffée, tout en changeant de siège comme on en avait prié.
« Quoi donc alors ?»«
La peur, monsieur Holmes, je suis terrorisée. »
Elle releva sa voilette et nous fûmes à même de constater qu'elle se trouvait énervée à un degré pitoyable. Ses traits étaient tirés, sa peau grise, ses yeux agités trahissaient l'épouvante. On aurait dit un animal traqué. Elle semblait avoir une 30aine d'années, mais ses cheveux avaient prématurément grisonné. Elle donnait l'impression d'une femme épuisée, égarée.
Sherlock Holmes lui dédia un regard aussi pénétrant que compréhensif.
« Vous ne devez plus avoir peur, » dit-il doucement, en se penchant vers elle pour tapoter sur son bras.
« Nous allons vite arranger cette affaire, j'en suis certain. Vous êtes arrivé par le train ce matin, n'est-ce pas ? Vous me connaissez donc ?
Non, mais je remarque un billet de retour dans la paume de votre gant gauche. Et vous avez dû partir de bonne heure. Et vous avez fait une longue course en cabriolet, sur de mauvaises routes, avant d'atteindre la gare. »
La dame sursauta et considéra mon camarade avec ahurissement.
Ne cherchez aucun mystère, chère madame, dit-il en souriant. Sur la manche gauche de votre veste, il y a ces taches de boue très fraîches. Le seul moyen de transport qui projette ainsi de la boue est un cabriolet. Et je suis sûre que vous étiez assise à gauche du cocher.
Vous avez raison, dit-elle. J'ai quitté la maison avant 6 heures. Je suis arrivée à Letterhead vers 6h20 et j'ai pris le premier train pour Londres. Monsieur, je n'en peux plus. Je deviendrai folle si ça continue. Je n'ai personne vers qui me tourner. Personne. Sauf quelqu'un qui me témoigne de l'intérêt, mais qui ne peut guère me secourir, le pauvre. J'ai entendu parler de vous, monsieur Sherlock Holmes. C'est madame Farintosh qui m'a parlé de vous. Vous l'avez aidée lorsqu'elle était en grand besoin de l'être. C'est elle qui m'a indiqué votre adresse. Ah, monsieur, ne croyez-vous pas que vous pourriez m'aider aussi? Si seulement je pouvais voir un petit peu plus clair dans la nuit où je me débats. Pour l'instant, il m'est impossible de vous offrir quoi que ce soit pour le service que vous me rendriez. Mais dans un mois ou deux, je serai mariée, je pourrai disposer de mes revenus, et je vous jure que vous n'aurez pas obligé une ingrate.
Holmes alla vers son bureau, ouvrit un tiroir et sortit un fichier qu'il consulta.
Farintosh, dit-il. Ah oui, je retrouve l'affaire de ce nom-là. Il s'agissait d'un diadème avec des opales. C'était avant notre association, Watson. Je vous dirai simplement, madame, que je serai heureux de m'occuper de vous et que j'apporterai à votre cas autant de diligence qu'à celui de votre ami. Quant à mes honoraires, mon métier lui-même comporte toutes sortes de récompenses. S'il entre dans vos intentions de me défrayer des dépenses que je pourrais avoir à supporter, alors vous me réglerez quand cela vous sera plus facile. Voilà tout. Pour l'instant, je vous serai reconnaissant de bien vouloir exposer tous les faits qui pourraient m'aider à former une opinion sur votre affaire.
Hélas, répondit notre visiteuse, ce qui fait l'horreur de ma situation est que mes craintes sont très imprécises et que mes soupçons ne sont fondés que sur de tout petits détails qui, à quelqu'un d'autre, paraîtraient insignifiants. La personne, par exemple, dont je souhaiterais tirer de l'aide et un avis, de préférence à qui que ce soit au monde, prend mes récits pour les lubies d'une femme trop nerveuse. Il ne me le dit pas aussi nettement que cela, mais je le devine d'après le ton lénitif de sa voix ou d'après son regard qui fuit.
On m'a affirmé, monsieur Holmes, que vous étiez capable de voir loin dans la méchanceté du cœur humain. En ce cas, vous pourriez me guider parmi les dangers qui guettent chacun de mes pas. Je vous écoute très attentivement, madame.